l'Église chrétienne comme organisation propriétaire. Revenons à la question de la part de la classe cléricale et de ses organisations dans la propriété au sein des sociétés ternaires. Les sources disponibles indiquent que l'Église catholique détenait environ 15% des propriétés terriennes en France dans les années 1780. En ajoutant une estimation de la valeur capitalisée de la dîme, on peut considérer que la part de l'Église était d'environ 25%. Les estimations disponibles pour les autres pays européens suggèrent des ordres de grandeur comparables. Les incertitudes pesant sur de telles quantifications sont certes nombreuses, d'abord parce que la notion même de droit de propriété prenait une signification spécifique dans les sociétés trifonctionnelles et incluait des droits juridictionnels et régaliens non pris en compte ici, et ensuite du fait des limitations des sources disponibles. Mais nous disposons par exemple pour l'Espagne du célèbre cadastre de la Ensenada, réalisé entre 1750 et 1760, et qui nous apprend que l'Église détenait alors 24% des terres agricoles. Il faudrait aussi ajouter l'équivalent espagnol de la dîme ecclésiastique française, mais ce n'est pas chose facile, car les relations entre la couronne espagnole et l'Église catholique se caractérisaient depuis l'époque de la Reconquista par de multiples transferts, renégociés en permanence, et par lesquels l'Église reversait à la couronne une partie de ses revenus fonciers. Ces transferts étaient initialement justifiés par la nécessité de contribuer au financement de la guerre sainte menée contre les infidèles musulmans pour assurer la reconquête du pays de 718 à 1492. Ils furent renouvelés par la suite, suivant des modalités complexes et variables dans le temps. Ces négociations entre pouvoir monarchique et ecclésiastique montrent d'ailleurs à quel point les questions de propriété étaient inextricablement liées dans les sociétés trifonctionnelles à des enjeux politiques plus vastes, à commencer par la question centrale de la légitimité des différentes élites et de leurs apports guerriers ou religieux à la communauté. On sait également peu de choses sur les propriétés autres que les terres agricoles. Ces dernières représentaient certes la majeure partie, entre la moitié et les deux tiers, du total des propriétés, c'est-à-dire de la valeur vénale totale de toutes les propriétés terriennes, immobilières, professionnelles, financières, nettes de dettes, en France, en Espagne ou au Royaume-Uni au XVIIIe siècle. Mais il ne faut pas pour autant négliger les autres biens, en particulier l'immobilier, les entrepôts et fabriques, et les actifs financiers. Or, la part de l'Église dans ses autres propriétés non terriennes est très mal connue et peut dissimuler des situations très variables. Des travaux récents ont par exemple montré que la part de l'Église espagnole dans le crédit hypothécaire, c'est-à-dire le crédit utilisant les biens terriens et immobiliers en garantie, était considérable, passant même de 45% au XVIIe siècle à 70% au milieu du XVIIIe siècle. En combinant les différentes sources, on peut considérer que l'Église détenait près de 30% de la propriété totale en Espagne en 1750, voire davantage. Quelles que soient ces incertitudes, le point essentiel sur lequel je voudrais insister ici est que les Églises détenaient une part extrêmement élevée de la propriété dans les sociétés ternaires européennes, typiquement autour de 25-35%, soit entre un quart et un tiers. On retrouve ce type d'ordre de grandeur pour les organisations ecclésiastiques dans des contextes très différents. Par exemple, l'Église éthiopienne détenait environ 30% des terres en Éthiopie autour de 1700. Il s'agit là d'un niveau très important. Quand une organisation détient entre un quart et un tiers de tout ce qu'il y a à posséder dans un pays, cela lui donne un poids financier et humain considérable pour structurer et réguler cette société, en particulier en rétribuant un clergé nombreux et en développant de multiples services et activités, notamment en matière éducative et sanitaire. Il ne s'agit certes pas d'un poids qui lui confère une importance hégémonique, contrairement par exemple aux États communistes de la période soviétique, point de comparaison extrême et néanmoins utile, qui, comme nous le verrons, possédait la quasi-totalité de tout ce qu'il y avait à posséder, typiquement autour de 70-90%. L'Église chrétienne est un acteur important au sein d'un système politique pluraliste, comme l'exprime d'ailleurs l'idéologie trifonctionnelle, et non pas un acteur hégémonique. Il n'en reste pas moins que ce poids faisait de l'Église le premier propriétaire des royaumes chrétiens. Aucun propriétaire noble individuel ne possédait autant de biens que l'Église, pas même le roi, et lui donnait une capacité d'action qui était souvent bien supérieure à celle de l'État lui-même. Afin de fixer les idées et les ordres de grandeur, il peut être utile de préciser que les institutions à but non lucratif détiennent, en ce début de XXIe siècle, une part incomparablement plus faible du total des propriétés. 1% en France, 3% au Japon et environ 6% aux États-Unis, pays où le secteur des fondations est pourtant particulièrement développé. Voir graphique 2.3. Encore faut-il préciser que ces estimations, issues des comptes nationaux officiels, incluent la totalité des institutions à but non lucratif, c'est-à-dire non seulement les biens détenus par l'ensemble des organisations religieuses, toutes confessions confondues, mais également et surtout les actifs possédés par l'ensemble des fondations et institutions non lucratives et non religieuses, y compris les universités, musées, hôpitaux et autres structures caritatives et à but non lucratif opérant dans toutes sortes de secteurs. Il peut également s'agir, dans certains cas, de fondations qui sont en théorie au service de l'intérêt général, mais qui en pratique sont principalement au service d'une famille particulière qui a placé une partie de ses biens pour diverses raisons liées par exemple aux aléas de la fiscalité ou de la gouvernance des familles et que les comptes nationaux modernes ne savent pas toujours très bien comment classer. En principe, les actifs détenus par des family trusts et autres fondations au service d'individus privés doivent être attribués au secteur des ménages et non à celui des institutions à but non lucratif. Mais la tâche n'a rien d'évident, de même qu'il n'est pas simple de savoir si les propriétés ecclésiastiques de l'Ancien Régime servaient avant tout les clercs ou la masse des fidèles. Les comptes nationaux, et en particulier les tentatives d'estimation du capital national et du revenu national, qui se développent à partir de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, en particulier au Royaume-Uni et en France, et qui jouent un rôle considérable dans le débat contemporain, sont des constructions sociales et historiques qui reflètent les priorités d'une époque et de leurs concepteurs, et qui comportent souvent de nombreuses limites. En tout état de cause, le point important sur lequel je veux insister ici est que, même en regroupant des entités aussi disparates, on aboutit à une détention totale qui est somme toute relativement limitée pour les institutions non lucratives du début du XXIe siècle, entre 1% et 6% du total des propriétés. Cela permet, à contrario, de réaliser la puissance des Églises en tant qu'organisation propriétaire dans l'Europe de l'Ancien Régime, entre 20% et 35%. Quelles que soient les incertitudes liées à ces mesures et au contexte de leur construction, les ordres de grandeur et les termes de la comparaison sont parfaitement clairs. Plus généralement, cette structure particulière de la propriété, fondamentalement différente de celle rencontrée dans les autres catégories de sociétés que nous allons étudier, aide à mieux comprendre l'une des caractéristiques centrales des sociétés trifonctionnelles. Il s'agit de sociétés dans lesquelles deux classes dotées de légitimité, de fonctions et d'organisation distinctes, la classe cléricale et la classe nobiliaire, contrôlent chacune une proportion considérable des ressources et des biens, approximativement entre un quart et un tiers des propriétés pour chacun des deux groupes, soit au total entre la moitié et les deux tiers pour les deux groupes réunis et parfois davantage dans certains pays, comme nous le verrons quand nous étudierons le cas du Royaume-Uni, ce qui leur permet de jouer pleinement leur rôle social et politique dominant. Comme toutes les idéologies inégalitaires, l'idéologie ternaire s'incarne à la fois dans un régime politique et un régime de propriété, et par là même dans une réalité humaine, sociale et matérielle spécifique. On peut également noter que cette part d'environ 30% du total des propriétés détenues par les Églises d'Ancien Régime correspond approximativement à la part du capital national détenu à la fin des années 2010 par l'État chinois, structure étatique qui est en pratique contrôlée par le PCC, Parti communiste chinois. Il s'agit évidemment de deux types d'organisations et de légitimités très différentes. Il n'en reste pas moins que les églises d'Ancien Régime, comme le PCC au début du XXIe siècle, sont des organisations caractérisées par d'ambitieux projets de développement et d'encadrement de la société, et que de tels projets ne peuvent être menés à bien qu'à partir d'une base patrimoniale solide. L'Église propriétaire face à la richesse et aux transmissions familiales. Il est intéressant de noter que cette dimension propriétaire des églises chrétiennes s'est développée de façon très précoce dans l'histoire du christianisme. Cette évolution a été de pair avec la constitution d'une véritable doctrine chrétienne sur les questions de propriété, de transmission familiale et de droit économique, qui, dans une large mesure, a accompagné le développement de l'idéologie trifonctionnelle et l'unification des statuts du travail. Au tout début de l'ère chrétienne, Jésus enseignait certes à ses disciples qu'il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais à partir du moment où les familles de riches romains épousèrent la nouvelle foi et commencèrent à s'emparer au sein de l'Église des positions dominantes en tant qu'évêques et écrivains chrétiens à la fin du IVe siècle et au cours du Ve siècle, les doctrines chrétiennes se devaient de traiter de façon frontale la question de la propriété et de la richesse et de faire preuve de pragmatisme. Dans une société devenue presque entièrement chrétienne, phénomène impensable peu de temps auparavant, et où l'Église se retrouvait à accumuler de vastes richesses, il devint vite indispensable de penser les conditions d'une propriété juste et d'une économie conforme à la nouvelle foi. Pour simplifier, la richesse devint alors une composante positive de la société chrétienne, à la condition qu'une partie des biens accumulés par les fidèles soit transmise à l'Église, qui, grâce à ses propriétés, put ainsi assurer son rôle de structuration politique, religieuse et éducative de la société. Et à la condition également qu'un certain nombre de règles économiques et financières soient respectées. Un nouveau partage des rôles et des légitimités entre richesses ecclésiastiques et richesses proprement privées se mit ainsi en place. Les spécialistes de l'Antiquité tardive, comme Peter Brown, ont bien étudié cette transformation des doctrines chrétiennes de la richesse au cours des IVe et Ve siècles, et le développement concomitant des actes spectaculaires par lesquels de riches donateurs se dépouillaient d'une partie de leur fortune. Certains anthropologues ont été jusqu'à défendre la thèse selon laquelle la seule véritable particularité européenne en matière de structure familiale dans le vaste espace eurasiatique provenait de cette attitude spécifique de l'Église chrétienne face à la richesse, et en particulier de sa ferme volonté d'accumuler et de détenir des biens. Selon Jack Goody, c'est ce qui conduisit les autorités ecclésiastiques a développé toute une série de normes familiales visant à maximiser les dons à l'Église, notamment en stigmatisant le remariage des veuves ainsi que les adoptions, prenant ainsi à rebours toutes les règles romaines qui encourageaient au contraire les remariages comme les adoptions afin de favoriser la circulation des biens, et plus généralement à limiter la capacité des groupes familiaux à concentrer leur contrôle sur les propriétés. Par exemple en interdisant les mariages entre cousins, avec un succès toutefois limité, tant il s'agit là d'une stratégie matrimoniale et patrimoniale commode pour des lignées fortunées, dans toutes les civilisations, ce qui montre au passage la radicalité du projet politique ecclésial chrétien, toujours dans le but de consolider la position de l'Église en tant qu'organisation propriétaire et politique rivale des familles. Quel qu'ait été le rôle exact joué par ces nouvelles règles familiales, cette stratégie patrimoniale a de fait été couronnée d'un immense succès, puisque l'Église s'est retrouvée grâce aux dons de ses fidèles, et pas seulement des veuves réputées généreuses, et à sa solide organisation juridique et économique à détenir, pendant plus d'un millénaire, des 5e, 6e siècles au 18e, 19e siècle, une part considérable des biens, et notamment des propriétés terriennes dans l'Occident chrétien, typiquement entre un quart et un tiers. C'est cette base patrimoniale qui a permis pendant tous ces siècles de faire vivre une importante classe cléricale, et aussi, en principe si ce n'est en pratique, de financer un certain nombre de services sociaux, notamment éducatifs et hospitaliers. Des recherches récentes ont également insisté sur le fait que le développement de l'Église comme organisation propriétaire n'aurait pas été possible sans la constitution d'un véritable droit économique et financier médiéval, en particulier pour trancher des enjeux très concrets impliquant des questions juridico-économiques de gestion des domaines, de pratiques usurières plus ou moins déguisées, d'instruments de crédit innovants, ou encore de restitution de biens ecclésiastiques indûment aliénés dans des contrats excessivement inventifs, où les clercs croyaient souvent voir la main des juifs et des infidèles peu respectueux des biens chrétiens. En particulier, Giacomo Todeschini a étudié de façon très fine l'évolution de ces doctrines entre le XIe et le XVe siècle, à un moment où les échanges et les circulations de richesses se complexifient et s'intensifient à mesure que les défrichements repoussent les limites des royaumes chrétiens, que la population s'accroît et que les villes se développent. Il analyse dans ce nouveau contexte le rôle central joué par les auteurs chrétiens pour développer des catégories juridiques, économiques et financières qui sont, selon lui, à l'origine des notions capitalistes modernes. Cela concerne notamment la protection juridique des biens d'Église face au pouvoir souverain temporel, aussi bien que face aux contractants privés, et le développement d'institutions juridictionnelles permettant d'apporter des garanties adéquates. Cela touche aussi le développement de techniques comptables et financières permettant de contourner, en tant que de besoin, la supposée interdiction de l'usure. La propriété ecclésiastique, à l'origine du droit économique et du capitalisme ? De fait, dans la doctrine chrétienne médiévale, contrairement à ce que l'on imagine parfois, le problème n'est évidemment pas que le capital produise un revenu sans travailler. Cette réalité incontournable est le fondement même de la propriété ecclésiastique. C'est précisément ce qui permet aux prêtres de prier et de veiller sur la société sans avoir à se préoccuper de labourer, et d'ailleurs de la propriété dans son ensemble. Le problème, abordé de façon de plus en plus pragmatique, est plutôt de réguler les formes d'investissement et de détention admissibles, de s'assurer que le capital ira à son meilleur usage, et surtout de mettre en place un contrôle social et politique adéquat de la richesse et de sa diffusion, conformément aux objectifs sociaux et politiques fixés par la doctrine chrétienne. Concrètement, le fait que les terres produisent un loyer pour leurs propriétaires ou donne lieu au paiement d'une dîme ecclésiastique dans les cas où l'Église n'est pas directement propriétaire, n'a jamais posé de véritables difficultés morales ou conceptuelles. L'enjeu était plutôt de savoir jusqu'où étendre le champ des placements autorisés en dehors de la sphère foncière, notamment en matière commerciale et financière, et de déterminer les formes de rémunération admissibles. Cette souplesse doctrinale s'exprime par exemple dans un texte du pape canoniste Innocent IV, qui, au cœur du XIIIe siècle, explique que le problème n'est certes pas l'usure en tant que telle, mais le risque qu'une rémunération usuraire trop élevée et trop certaine conduise les riches à choisir par appât du gain ou pour garantir la sécurité de leur argent dans l'usure plutôt que dans des activités moins sûres. Le pontife poursuit en citant comme exemple d'activité moins sûre le fait d'investir ses capitaux dans les bêtes et les outils de culture, bien que les pauvres ne possèdent pas et qui sont indispensables pour accroître les véritables richesses. Il en conclut que le taux de l'usure ne peut dépasser un certain seuil. Un banquier central soucieux de relancer l'investissement dans l'économie réelle ne s'y prendrait pas autrement pour justifier au début du XXIe siècle sa décision de réduire le taux d'escompte à un niveau proche de zéro, avec un succès parfois limité, mais c'est une autre question. On voit aussi se développer dans le même temps de nouvelles techniques financières qui sont autant d'exceptions aux règles antérieures, avec par exemple la généralisation de la vente de rente et de nombreuses formes de vente à crédit qui ne sont désormais plus considérées comme usuraires pourvu que la doctrine chrétienne les identifie comme aptes à favoriser la circulation des biens vers les meilleurs usages. Todeschini souligne également l'emprise croissante des discours visant à justifier l'expropriation des Juifs et des autres infidèles, discours soulignant notamment leur incapacité à comprendre la signification de la richesse et son bon usage, et la menace qu'ils font peser sur les propriétés ecclésiastiques, au fur et à mesure que se développent les nouvelles techniques de crédit légitimement ouvertes aux chrétiens, avec en particulier le développement de nouvelles formes de dette publique à la fin du XVe siècle et au cours du XVIe. D'autres auteurs ont noté que le trust anglo-saxon, structure de propriété permettant de séparer l'identité du bénéficiaire et du gestionnaire, le trustee, et ainsi de mieux protéger les actifs, avait des origines remontant à des modes de détention développés dès le XIIIe siècle par les moines franciscains qui, eux non plus, ne pouvaient ou ne voulaient pas apparaître directement comme propriétaires individuels de premier degré. Au final, la thèse sous-jacente est que le droit de propriété moderne, dans ses dimensions émancipatrices comme d'ailleurs dans ses dimensions inégalitaires et excluantes, n'est pas né en 1688 quand le propriétaire anglais, noble ou bourgeois, a voulu se protéger face à son souverain, ni même en 1789 quand le révolutionnaire français a voulu opérer la grande démarcation entre appropriation légitime des droits sur les biens et illégitime des droits sur les personnes. Ce sont les doctrines chrétiennes qui l'ont élaboré au fil des siècles pour assurer la pérennité de l'Église en tant qu'organisation à la fois religieuse et possédante. On peut aussi considérer que cet effort d'abstraction, de conceptualisation et de formalisation juridique des notions économiques et financières a été rendu d'autant plus nécessaire dans le cas des sociétés ternaires chrétiennes que la classe cléricale n'existait pas en tant que classe héréditaire, mais simplement en tant qu'organisation abstraite et perpétuelle, un peu à la façon des grandes fondations modernes et des entreprises et compagnies capitalistes, ainsi que des administrations étatiques. Dans l'hindouisme ou dans l'islam, les temples et les fondations pieuses n'étaient certes pas absents, mais ils allaient de pair avec de puissantes classes cléricales héréditaires, si bien que le pouvoir sur les biens pouvait davantage s'appuyer sur des réseaux personnels et familiaux, avec pour conséquence que le besoin de codifier et de formaliser les relations économiques et financières était moins fort. Certains auteurs ont également fait remarquer que le durcissement des règles du célibat à la suite des réformes grégoriennes du XIe siècle, le concubinage était encore fréquent et toléré dans le clergé catholique occidental jusqu'à cette date, pouvait être analysé comme une façon d'éviter de possibles dérives familialistes et héréditaires et de renforcer le poids de l'Église en tant qu'organisation possédante. Il ne s'agit certes pas de conclure ici que le destin de l'Europe est tout entier inscrit dans le célibat des prêtres, la morale sexuelle chrétienne et la puissance de l'Église comme organisation propriétaire. De multiples autres processus et bifurcations ultérieures permettent de rendre compte des différentes spécificités de la trajectoire européenne, de façon sans doute bien plus décisive. En particulier, la concurrence entre États européens a contribué à des innovations militaires et financières qui ont eu un impact direct sur les dominations coloniales, le développement capitaliste et industriel et la structure des inégalités modernes à l'intérieur des pays comme entre pays. Nous y reviendrons largement par la suite. Le point essentiel sur lequel je souhaite insister ici est simplement que les sociétés trifonctionnelles et leurs multiples variantes ont laissé, elles aussi, une empreinte essentielle sur le monde moderne et méritent toute notre attention. En particulier, elles reposaient sur des constructions politico-idéologiques sophistiquées visant à décrire les conditions d'une inégalité juste, conforme à une certaine vision de l'intérêt général et les moyens institutionnels d'y parvenir. Dans toutes les sociétés, cela implique de régler toute une série de questions pratiques concernant l'organisation des rapports de propriété, des relations familiales et de l'accès à l'éducation. Les sociétés ternaires ne font pas exception et ont apporté des réponses variables et imaginatives à ces questions, construites autour du schéma général trifonctionnel. Ces réponses avaient leur fragilité, et pour la plupart, n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Il n'en reste pas moins que leur histoire est riche de leçons pour la suite.